Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La rencontre, c'est sûr, risque d'être houleuse. Donald Trump reçoit aujourd'hui à Washington Recep Tayyip Erdogan. Les deux hommes ont eu ces dernières semaines des échanges, on va dire, virils du retrait des troupes américaines en Syrie qui a semblé arranger les affaires du président turc aux menaces de Donald Trump qui a exigé un cessez-le-feu. Ce qui est sûr, c'est que le sultan Erdogan s'est en réalité placé au centre du jeu. Son intervention en Syrie contre ses alliés de l'OTAN, ses commandes d'armement russe, ses menaces de laisser passer en Europe les 3,6 millions de réfugiés et ses djihadistes qu'il a choisi de renvoyer à la France dans une sorte de bras de fer diplomatique. Alors que cherche Erdogan, qui sont ses alliés? Est-il encore tout puissant en Turquie? Erdogan défie Trump et l'Europe, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau. Vous êtes rédacteur en chef international au journal du Dimanche. Sur le site de votre journal, on peut retrouver aujourd'hui votre interview de l'ancien conseiller d'Obama, Dennis Ross, qui explique qu'au Moyen-Orient, la politique de Trump est incohérente. Nous y reviendrons. Ariane Bonzon, vous êtes journaliste pour Slate.fr et Le Monde Diplomatique. Citons votre dernier livre, Turquie, l'heure de vérité, aux éditions Empreinte. Et je précise que vous rentrez aujourd'hui de 3 semaines de reportage en Turquie. Guillaume Perrier, vous êtes journaliste, grand reporter, notamment pour Le Point. Vous avez activement participé au dossier du Point sur Erdogan, l'éradicateur, citons votre livre, Dans la tête d'Erdogan, aux éditions Actes Sud. Enfin, Jean-Dominique Merchet, vous êtes éditorialiste à L'Opinion, spécialiste des questions de défense et de diplomatie. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Revenons et commençons cette émission par cette rencontre qui va avoir lieu dans quelques heures à Washington entre Donald Trump et Erdogan. Quel est l'enjeu de cette rencontre? Qu'est-ce qu'ils attendent l'un et l'autre?
Beaucoup. Que vous avez raison, les enjeux sont importants. C'est compliqué pour Erdogan parce qu'il arrive en terrain un peu miné dans la mesure où le Congrès, pour ne prendre que le Congrès, et de façon bipartisane, démocrates et républicains, ont voté il n'y a pas si longtemps une résolution qui condamne le génocide des Arméniens. C'est la première fois que le Congrès adopte un texte aussi dur à l'encontre de la Turquie. Ce même Congrès est hostile à la politique de Donald Trump dans la région, c'est-à-dire à la fois le retrait annoncé de Syrie et en même temps cette sorte de feu vert donné à la Turquie pour pouvoir rentrer en Syrie et y combattre les Kurdes. C'est compliqué aussi pour Trump, parce que Trump se rend bien compte qu'il n'a pas eu tout ce qu'il voulait en échange, et notamment quelque chose d'important, qui est le système de défense turc. Il se trouve que Erdogan, après avoir longuement hésité entre ses fournisseurs, a choisi de se doter de missiles S-400 russes. Qui sont en contradiction flagrante avec son équipement et son appartenance à l'OTAN, ce qui remet en question le fait que les États-Unis puissent lui vendre des avions F-35, par exemple, qui sont incompatibles avec les modes de défense russes. Et puis, il y a le contentieux qu'il y a entre la Turquie et les États-Unis, qui dépasse largement les deux hommes, et par exemple, le fait que, la dernière fois qu'il est venu à Washington, on a vu cette scène absolument incroyable, où on a vu les gardes du corps de Erdogan se mettre à chasser et à tabasser des manifestants qui étaient suspectés d'appartenir à la mouvance guléniste qui était elle-même soupçonnée d'avoir fomenté le coup d'État contre Erdogan. On est là quand même sur une somme de différends, de contentieux, de querelles et de querelles d'égo également entre ces deux personnages, très autoritaires, très brutaux dans leur façon de faire. Et donc oui, ça promet une rencontre un peu délicate.
Mais que va chercher Erdogan lui-même? Ariane Bonzon.
il va chercher un petit peu... il a fait cette grosse opération.
Déjà, pardon, je vous pose une question, puis je vous coupe après et je m'en excuse, mais c'est un cadeau quand même pour Erdogan d'être reçu à Washington.
Absolument, la visite a été très contestée. La visite a été très contestée. Il y a eu d'ailleurs une mobilisation pour annuler cette visite de la part même du camp républicain. Vous savez que le camp républicain, il y a eu une vraie bronca contre en particulier le fait que Trump ait donné le feu vert à l'opération militaire en Syrie qu'a lancée la Turquie. Donc c'est aussi autour de ça. Alors, ce qu'ils cherchent, effectivement, c'est... ce qui est un peu compliqué, vous l'avez bien dit, c'est pas très lisible, la politique de Trump vis-à-vis d'Erdogan.
Les deux, leur relation n'est pas lisible.
Leur relation est peut-être meilleure, malgré les contentieux qu'il y a, leur relation est peut-être meilleure qu'on ne le croit. Parce que, effectivement, les deux hommes sont sans doute fascinés l'un par l'autre. Il y a quand même une psychologie... je dirais pas semblable, mais il y a quelque chose d'intéressant qui se passe à ce niveau-là. Et ce que va chercher Erdogan, c'est encore une fois, des éléments qui puissent, sur sa scène intérieure, lui servir. Parce qu'il est complètement mobilisé pour... Il a pris beaucoup de coups sur la scène intérieure. Vous vous rappelez des municipales de mars qu'il a perdu.
Il a perdu Istanbul.
La crise économique est très, très importante. Donc, il espère obtenir quelque chose de Trump qu'il puisse ramener en Turquie. Mais ça va être compliqué parce que ça risque d'être absolument le contraire qui se passera. En particulier, on a vu toutes les déclarations qu'avait fait Trump sur « je vais casser l'économie en 3 minutes ». Ce qui nourrit parfaitement toute la psychologie complotiste ou la psychologie paranoïaque des Turcs. C'est la pire des choses à dire pour les Turcs, parce qu'ils disent, on avait raison, les Américains veulent nous casser, quoi, nous
mettre à genoux. Voilà. Guillaume Perrier, sur cette rencontre entre les deux, c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, c'est très complexe ce qui s'est passé ces derniers jours, et la relation, elle est difficile à lire, c'est-à-dire, en préparant cette émission, j'ai appris qu'il y avait une Trump Tower Istanbul, où ils s'étaient vus, alors là, à cette époque-là, ils étaient très proches. La famille avait des liens avec certains dignitaires turcs. Et puis là, on a l'impression que rien ne va plus entre ces deux-là.
Je crois qu'il faut revenir justement à ce que vous soulignez. C'est qu'il y a quand même des choses très, très prosaïquement, des liens d'affaires entre la famille Trump, notamment le gendre Jared Kushner, et la famille Erdogan et ses proches. On sait qu'Erdogan est entouré par un aréopage d'hommes d'affaires qui financent son parti, qui financent ses activités politiques. Il y a des liens d'affaires très forts depuis 2011, depuis une période antérieure à l'élection de Trump à la Maison-Blanche. Donc, si vous voulez, tout ça nourrit quand même
des liens.
Et puis, comme l'a reconnu aussi le conseiller John Bolton très récemment, on sait qu'une partie de la diplomatie de Trump est guidée par des intérêts personnels et des intérêts d'affaires. Chez Erdogan, c'est évidemment la même chose.
D'accord.
Et d'une manière très importante. Donc aujourd'hui, il faut aussi... Alors effectivement, il y a l'histoire des missiles S-400, il y a l'histoire de Gulen qui est très importante pour Erdogan et sur laquelle il va effectivement faire une pression importante aussi sur la Maison-Blanche. Mais il y a des choses beaucoup plus prosaïques, des liens d'affaires, des liens de business entre les deux administrations, si vous voulez. Donc il y a une rencontre de circonstances entre ces deux choses-là.
Il n'y a pas un mot d'ordre, il n'y a pas un sujet vraiment sur lequel ils doivent tomber sur un accord, ou ils doivent sortir en disant c'est bon, on a abordé le sujet et on a trouvé une entente.
En général, il y aura vraisemblablement un accord sur les missiles S-400. Ce que recherche Erdogan, c'est un compromis qui lui permette à la fois de garder ses missiles russes et donc son alliance stratégique militaire avec la Russie qui guide sa diplomatie et sa politique intérieure depuis 2015. Donc un compromis là-dessus qui lui évite des sanctions trop fortes de la part de Donald Trump. Je pense que c'est ça qui est le cœur des discussions.
Avant même son arrivée à Washington hier soir, Erdogan expliquait en fait qu'il allait mettre les pieds dans le plat, qu'il aborderait tous les sujets. C'est une façon de bomber le torse, c'est souvent comme ça que ça se passe. Quand on est dans son pays, il fait une déclaration avant d'arriver à Washington en disant « je mettrai les pieds dans le plat, document à l'appui, j'expliquerai que l'accord que nous avions n'a pas été respecté ». Il parle de quoi ?
L'accord en Syrie.
Oui. L'accord en Syrie, oui. Oui, c'est son style. Absolument, c'est son style. Il a un côté un peu voyou.
Comme Trump, c'est un peu un Trump.
Trump, c'est un milliardaire.
Ouais. Erdogan
l'est devenu. L'est devenu.
J'attendais la fin.
L'est devenu, mais il est issu d'un milieu populaire, des quartiers populaires. Il a un côté un peu battleur, un peu voyou, comme ça. D'ailleurs, pendant des années, alors là, on ne le voit pas sur la photo, mais une de ses caractéristiques, c'est qu'il portait des vestons rayés, parce que le veston rayé, à carreaux, parce que le veston à carreaux, c'est le symbole un peu des classes populaires. Il prétend représenter les classes populaires. D'ailleurs, les classes populaires ont voté pour lui en Turquie pendant très longtemps. Donc, il a ce côté, voilà. Donc, c'est pas étonnant qu'il la ramène beaucoup avant d'aller... C'est sa méthode. Alors, en même temps, au-delà du lien qu'il peut y avoir entre Trump et Erdogan, la Turquie reste un partenaire essentiel pour les États-Unis dans la région.
Partenaire militaire.
Ça, c'est militaire, politique, parce que... À aucun moment, les Américains ne veulent que la Turquie bascule, ce qui est c'est peu probable, mais se rapproche encore plus de la Russie. Évidemment, c'est un membre de l'OTAN depuis 1952. C'est un pays dans lequel il y a une base militaire américaine, base sur laquelle il y a des armements nucléaires américains. Donc, on n'est pas du tout... c'est un allié des États-Unis. C'est un
allié... Oui, alors c'est compliqué cette phrase maintenant. Être allié des États-Unis, parfois,
C'est un allié des États-Unis. Et au sein de l'appareil d'État, aussi bien en Turquie qu'aux États-Unis, les gens ont plutôt envie que ça continue, cette alliance. Il ne faut pas imaginer qu'on a un basculement total de la Turquie dans l'orbite russe. Les relations historiques entre la Russie et la Turquie sont très mauvaises. Donc, ils jouent un jeu d'équilibre.
Alors, juste pour être sûr d'avoir bien compris ce que vous nous expliquez depuis le début de l'émission, ils jouent un jeu d'équilibriste l'un et l'autre pour des raisons de politique intérieure, l'un et l'autre ? Ou est-ce que c'est autre chose qui se joue ?
Beaucoup pour des questions de politique intérieure. Le retrait des États-Unis de Syrie, annoncé, pas forcément effectué, mais annoncé en tout cas, c'est une façon pour Donald Trump de parler directement à ses électeurs en disant « Je vous ai promis de quitter ces guerres interminables, c'est ce que je fais et c'est fait avant la fin de mon premier mandat ». De la même façon, Erdogan parle à son électorat pour leur dire « Regardez, je défends les intérêts de la nation, y compris devant notre allié difficile ». Qui est l'allié américain, mais ce terme difficile, il est employé dans les deux sens. Tout le monde reconnaît aujourd'hui, et y compris nous, les Européens, que la Turquie est un allié difficile, avec lequel on a énormément de difficultés à négocier, parce qu'il n'est plus là où on l'attend, cet allié. C'est-à-dire que pour nous, Européens, sur la question migratoire ou de terrorisme, c'est difficile. Pour les Américains, sur la question de l'appartenance à l'OTAN, on voit bien que ça a des limites. Et pour Erdogan dans la région, on voit bien que tous ceux avec qui il était ami il y a encore une dizaine d'années, il s'est fâché avec énormément de monde. C'est un allié compliqué.
Un allié compliqué. La Turquie n'est pas un hôtel pour les membres de Daesh. Cette phrase d'un ministre turc donne le ton. D'ailleurs, 11 djihadistes français vont probablement être renvoyés en France par Istanbul. Le sujet sera au cœur des discussions entre Donald Trump et Erdogan qui se rencontrent, on l'a dit, aujourd'hui à Washington. Entre les deux hommes, le ton est sérieusement monté ces dernières semaines, notamment au sujet du dossier syrien. Myriam Ziar, Nicolas Baudry-Dasson.
Aux États-Unis, beaucoup auraient préféré ne pas l'inviter. Hier, le très contesté président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé à Washington, à l'abri des regards. La rencontre avec Donald Trump s'annonce musclée. OTAN, Syrie, retour des djihadistes, les sujets qui fâchent ne manquent pas. Et avant même de prendre l'avion, l'homme fort d'Ankara a annoncé la couleur.
Je lui dirai, document à l'appui, que l'accord que nous avons conclu sur l'opération en Syrie n'a pas été pleinement respecté.
Le président turc estime que les groupes armés kurdes n'ont pas tous quitté le nord de la Syrie, comme le prévoyait l'accord arraché par le secrétaire d'État américain Mike Pence le 17 octobre. Un accord de cessez-le-feu conclu une semaine après le début de l'offensive. Tout commence début octobre. Donald Trump décide de retirer ses troupes de Syrie. Un choix qui permet à la Turquie de lancer son opération contre les forces kurdes. Face au tollé, critiqué de toutes parts, Donald Trump avait durci le ton contre son homologue turc.
Je vais détruire son économie si cela se produit. J'espère qu'il agira de manière rationnelle. Il faut comprendre qu'ils se battent depuis des décennies, depuis des siècles même.
Malgré ces menaces, Erdogan n'a pas renoncé à mener son opération militaire. Une offensive qui n'a pas du tout plu à certains membres de l'OTAN, à commencer par la France.
À toutes et tous. J'ai compris que les États-Unis d'Amérique et la Turquie étaient dans l'OTAN. Et j'ai découvert par tweet que les États-Unis d'Amérique décidaient de retirer leurs troupes et de libérer la zone, comme tout le monde. Et j'ai compris qu'une autre puissance de l'OTAN décidait d'attaquer ceux qui ont été les partenaires de la coalition internationale sur le terrain pour se battre contre Daesh. C'est pour ça que c'est une folie de faire ce que les Turcs sont en train de faire depuis plusieurs jours.
Une condamnation qui n'effraie pas le président turc, qui agite régulièrement la question migratoire pour faire pression sur les Européens.
Hey, l'Union européenne, ressaisissez-vous. Je l'ai dit encore une fois. Si vous essayez de qualifier cette opération d'invasion, c'est très simple. J'ouvrirai la porte. Et j'enverrai 3,6 millions de réfugiés chez vous.
Et ce n'est pas la seule carte brandie par la Turquie. Le sort des djihadistes étrangers est un autre sujet sensible que les autorités turques savent très bien manier.
En ce qui concerne les djihadistes étrangers, nous allons les garder sous notre contrôle pendant encore un certain temps. Ensuite, nous les renverrons dans leur pays. Nous ne sommes pas un hôtel pour les membres de Daesh.
La Turquie a donc annoncé lundi l'expulsion de 11 djihadistes français vers leur pays d'origine. Un retour encadré, précise ce matin le ministère de l'Intérieur.
On a depuis 2014 un protocole qui s'appelle le protocole Cazeneuve et qui fait en sorte que les Turcs nous remettent ces personnes.
Il y en a combien qui sont remis depuis, qui ont été remis depuis
2014. On est à près de 250 personnes qui ont été remises dans le cadre de ce protocole par les autorités turques de manière sécurisée et surtout judiciarisée, c'est-à-dire que ces personnes sont prises en charge immédiatement par la justice à leur arrivée. Et pour les majeurs, bien évidemment, c'est la case prison.
Au total, selon la Turquie, 7600 terroristes ont déjà été renvoyés chez eux en concertation avec les pays concernés. Mais Ankara prévient, désormais d'accord ou pas, chacun devra prendre sa part.
On a l'impression qu'il a été sérieusement agacé par le ton des déclarations des Européens et peut-être en particulier d'Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan. C'est vrai qu'on se faisait la remarque, on va le dire, en regardant ce reportage, c'est-à-dire qu'on est dans un monde maintenant où les chefs d'État se parlent sur ce ton.
Oui, sur ce ton-là, et en plus avec cette idée que la formulation d'un chantage n'est plus du tout tabou.
C'est ça.
C'est-à-dire que c'est pas nouveau hein, de la part d'Erdogan, ni d'autres chefs d'État d'ailleurs qualifiés d'autoritaires aujourd'hui ou d'illibéraux. Mais c'est vrai, cette tonalité aujourd'hui ne choque pratiquement plus grand monde. On peut dire, si tu ne fais pas ça, voilà ce que je ferai. Et au lieu de le faire dans le langage de la diplomatie ou, j'allais dire, de façon civilisée, ça se fait à une tribune de parti politique où non seulement on est dans l'invective, dans l'insulte, mais où on brandit la menace du chantage. Et ça, c'est surtout vrai, là, en l'occurrence, pour l'affaire migratoire. Mais c'est vrai que ça existe aussi, on l'a vu avec Donald Trump, par exemple, sur le plan commercial, où ils disent, si vous ne rentrez pas dans le rang, eh bien, je mettrai 50%, 100%. Parce que ça contribue aussi à ce qu'ils croient être leur intérêt. Donc, faut jamais oublier ça. Ce ne sont jamais des paroles en l'air. Ce sont des illustrations de la façon dont on exprime quels sont ses intérêts premiers. Sauf qu'au lieu de le faire de façon propre, eh bien, on le fait de façon, j'allais dire, presque comme un voyou. Mais c'est vrai que c'est dans l'air du temps.
Ce que je trouve intéressant, c'est que la France est vraiment une cible numéro 1 ou numéro 2. Hein, les Allemands sont tétanisés par cette histoire de chantage à la migration. Hein, ils ont été en première ligne de toute l'histoire de 2015 avec toutes ces vagues, etc. Vous vous rappelez, Merkel a négocié. Et donc,
elle avait négocié un accord
en 2016 avec la Turquie de façon unilatérale. Voilà. Vous avez tout à fait raison.
Ça a été européanisé.
Et ça a été européanisé après.
Elle est partie toute seule,
tout à fait. Et là, la France, les Anglais, ce qu'on m'a expliqué, les Anglais. Pense déjà à l'après-Brexit et essaye d'avoir des relations développées avec les Turcs. Donc les Français sont la cible. Pourquoi ? Parce qu'ils sont encore très présents. Alors, Macron dit, vous savez, la théorie, c'est Américain in, Français in, c'est-à-dire on reste.
D'accord.
Si les Américains partent, on part.
On sort aussi. Hein.
Bon, en fait, les Américains ne sont pas complètement partis. Ils sont restés, et c'est pour ça aussi que Erdogan a un problème, c'est que toute son histoire, il n'a pas eu la bande qu'il voulait, aussi grande, importante au nord de la Syrie. Les Américains sont maintenant à l'est, si vous voulez, de la frontière, autour des puits de pétrole. Pourquoi ils restent au puits de pétrole ? Pas parce qu'ils veulent le pétrole, ça c'est ridicule, ils ont bien d'autres endroits. C'est parce que c'est une façon pour eux, s'il y a une négociation avec les Syriens, de peser. De couper les réserves et les ressources en pétrole dans une future négociation constitutionnelle avec les Syriens. Donc ça, déjà, ça pose un problème avec Erdogan, parce que ces puits de pétrole, il avait déjà eu des échanges, son fils, enfin, il y a eu toutes des histoires. Et puis, il dit, ils n'ont pas tenu leur accord parce que les Kurdes sont toujours là. Les Kurdes, maintenant, font des patrouilles à la frontière avec les Syriens, avec l'armée syrienne. Et on sait toute l'utilisation et l'instrumentalisation que Damas a fait des Kurdes, en particulier du PKK, contre la Turquie. Donc on se retrouve dans un système enfin, qu'on a connu dans les années 90. Où effectivement, alors ça n'est pas tout à fait la même chose, mais écoutez les dernières déclarations d'Assad sur Erdogan. Il a pris Erdogan en cible. Donc, il a raison, si vous voulez, d'avoir un peu peur et d'espérer quelque chose de Trump parce que c'est
mais pas
pourquoi, très bon
mais pourquoi
tout ce qu'il a
vous
fait.
Avez commencé en disant que la France était particulièrement dans le viseur d'Erdogan. Pourquoi la France en particulier?
Parce qu'elle est présente sur le terrain avec les IPG. Si vous voulez, l'idée, c'est vous soutenez. Vous avez vu ce communiqué d'une agressivité absolument terrible du ministère des Affaires étrangères parce que le Parlement français a condamné l'opération, l'intervention militaire turque. L'ambassadeur s'est fait appeler à Ankara, enfin s'est fait inviter à venir parler de ça. Il a été d'ailleurs, effectivement,
les Turcs lui ont remonté les bretelles
sur ça. Et sur l'interdiction, c'est tout à fait une autre histoire, mais des mères voilées sorties de l'école. Deux choses, hein, ce qui est intéressant. Bon, cela dit,
il nous accuse de jouer un double jeu, c'est ça
ce il nous accuse de soutenir la formation d'un État kurde, et eux, ils ne veulent pas d'entité kurde autonome, ils ne veulent pas. Ils nous accusent, si vous voulez, d'être alliés avec leur ennemi kurde autonomiste syrien.
Cette question, il ne faudrait pas que je l'oublie. Erdogan et Trump ensemble, l'Europe n'est-elle pas le dindon de la farce? Une Europe faible n'arrange-t-elle pas ces deux dirigeants?
Voilà, c'est ça.
C'est ça le sujet.
Erdogan est dans un rapport de force, comme on vient de l'expliquer, un rapport de force permanent. C'est son mode de fonctionnement avec tout le monde, hein, avec ses adversaires, comme avec ses partenaires en interne, comme à l'international. Il est dans un rapport de force avec l'Europe, on le voit bien, depuis la signature de cet accord migratoire en 2016. Il instrumentalise la question des réfugiés syriens et la peur des migrants qui existent en Europe.
Et il négocie des fonds européens, ou pas?
Oui, il a négocié ça, bien sûr. Voilà. Il y a 6 milliards d'aides, qui sont quand même une goutte d'eau, effectivement, par rapport à la somme qui a été investie par la Turquie pour l'accueil des réfugiés. Mais il joue, si vous voulez, sur les deux tableaux, du côté syrien et du côté européen, cette carte des migrants, qui sont une arme de négociation, on le voit bien aujourd'hui. Il s'adresse aux Européens en leur demandant de soutenir ces projets de colonisation du nord de la Syrie, hein, c'est de ça qu'il s'agit. J'ouvre les portes et je vous envoie 4 millions de réfugiés. La même chose avec des déclarations hier sur la question chypriote. Il y a des forages illégaux qui sont conduits en ce moment par la Turquie autour de Chypre. L'Europe, évidemment, menace de sanctions la Turquie pour ça. Erdogan a ressorti cette menace d'ouvrir les portes des réfugiés si un compromis n'est pas trouvé sur Chypre.
Et il gagne à chaque fois qu'il fait ce bras de fer-là.
Écoutez,
on courbe les
Chines. En tout cas, on lui donne la possibilité de faire ce chantage.
On lui
donne cette possibilité en signant un accord migratoire avec la Turquie en 2016 parce que l'Union européenne était incapable de désigner une politique migratoire commune. Et finalement, dans tout ça, Erdogan exploite les failles de ses adversaires. Il exploite les failles de l'Union européenne sur la question migratoire et sur la question des djihadistes aujourd'hui. La même chose va se produire avec les djihadistes. Depuis 3 jours, on a donc cette rencontre entre Trump et Erdogan. Oui. Depuis 3 jours, à la frontière grecque, frontière entre la Turquie et la Grèce, vous avez un djihadiste de Daesh américain qui a été expulsé de Turquie, que la Grèce a refusé, et qui se trouve depuis 3 jours dans ce no man's land entre les deux frontières, sous les caméras du monde entier.
Et que disent les Américains?
Les Américains disent qu'ils ne veulent pas le recevoir. Mais c'est une manière pour Erdogan de montrer toute la faiblesse des pays occidentaux qui sont incapables de gérer cette question.
C'est important parce qu'on a beaucoup entendu cette histoire des djihadistes français. 11 djihadistes français, 7 enfants et 4 femmes qui seraient rapatriés sur le territoire. On a entendu dans le reportage les autorités françaises qui expliquent que tout ça s'est déjà produit, que tout ça est géré, que ça s'appelle la Convention Cazeneuve, ça a même un nom, et qu'on n'est pas dans un bras de fer diplomatique. Alors, vos explications sur ce point-là, est-ce qu'on est vraiment dans la menace exercée par Erdogan et le rapport de force vis-à-vis de la France, en disant, vous savez quoi, vous avez parlé d'invasion, on va vous renvoyer vos djihadistes, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça?
Il y a un peu de mise en scène par la Turquie de tout ça. La réalité, c'est qu'effectivement, depuis 2014, il y a le protocole Cazeneuve du nom du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui a été signé avec les autorités d'Ankara. Depuis lors, ça a donné lieu au retour d'exactement de 261 Français qui ont été arrêtés en Turquie, certains même sans doute dans le nord de la Syrie et transférés en Turquie, renvoyés en France pour être jugés. Et ils sont aujourd'hui en prison ou pour les enfants dans le système d'aide sociale à l'enfance. Donc là, il y en a 11 de plus qui devraient rentrer ce sont des femmes et majoritairement des enfants. Donc effectivement, il n'y a pas une quand le ministre de l'Intérieur dit bah oui, on continue, il n'a pas tort de dire ça.
Ouais. Il faut rappeler dans quel contexte le protocole Cazeneuve a été signé. Oui, bien sûr, c'est
la suite d'un pataquès. Ils avaient renvoyé des gars sans prévenir.
Sans nous prévenir, ils étaient arrivés sur le territoire français, ce qui n'était pas rien.
Et eux-mêmes étaient quasiment allés se livrer à la police en disant, vous savez, on est rentrés. Ouais. Bon, bref, c'était un dysfonctionnement administratif comme il en arrive. Non, si on prend le schéma plus global, ce à quoi on assiste, c'est que les Européens, dont les Français, ont une fâcheuse tendance, peut-être parce qu'il n'y a pas les moyens de faire autrement, à sous-traiter tous les problèmes. Donc, on a sous-traité la garde de notre frontière à la Turquie, en disant, bon, écoutez, soyez gentils, mais empêchez les gars de venir. Donc, on a fait ça. Donc, un jour, ils nous disent, écoutez, les gars, on fait ça pour vous, mais il va peut-être falloir que vous soyez gentils avec nous. On a sous-traité...
Enfin, on paye, en l'occurrence, on fait
non,
pas...
Non, on paye pas.
Il n'y a pas d'aide européenne pour la Turquie sur la gestion des migrants.
Aux ONG... Oui. Non, mais c'est très, très important. L'aide européenne, il y a 3 milliards sur les 6 qui ont été virés. Elles vont aux ONG qui soutiennent les réfugiés en Turquie. On ne paye pas le gouvernement turc pour ça.
Les ONG sont...
Néanmoins, on ne paye pas, la Turquie pour ça. Ouais. Et puis, voilà. On a sous-traité la guerre en Syrie. Plutôt que d'envoyer nos soldats se battre contre Daesh, on a demandé aux Kurdes de le faire pour nous. Et à un moment, ils nous disent, les gars, bon, on s'est battu pour vous, vous n'allez peut-être pas nous lâcher comme ça. On sous-traite les djihadistes en partie aux Turcs sur vous ne les renvoyez, vous les gardez. Ouais. Et surtout, on a sous-traité les prisonniers djihadistes aux Kurdes. Et maintenant, on essaie de
convaincre...
Essaie de convaincre les Irakiens de les garder en les payant un peu. Ils nous disent, les gars, on a d'autres soucis que de garder vos gus. Donc, on vous les renvoie. Ouais. Donc, à partir du moment où on fait une politique de sous-traitance, un jour, les sous-traitants, ils se retournent vers le donneur d'ordre et ils disent, bon, il va peut-être falloir que vous soyez au minimum gentil avec nous. Or, on insulte Erdogan. Ouais. Le président Macron dit, ce qu'il fait, c'est la folie. On peut comprendre.
Ouais. Macron a bien été très insulté aussi.
Non, mais on peut comprendre. Oui, mais sauf que nous sommes dans la position du demandeur. On ne fournit pas de service à la Turquie. C'est la Turquie qui nous rend un service, en l'occurrence.
C'est parfaitement clair. Ce que je comprends surtout de votre explication, c'est qu'on a donné un pouvoir considérable Erdogan.
C'est tout le problème.
Oui, mais
aujourd'hui, dans nos relations diplomatiques.
Non, mais ce pouvoir de la Turquie, on ne lui a pas donné. La Turquie a un pouvoir.
En sous-traitant.
Naturellement, mais on ne l'a pas donné à n'importe qui non plus. On l'a donné à la Turquie parce que la Turquie, géographiquement, politiquement, diplomatiquement, stratégiquement, avec son appartenance au camp de la coalition et de l'OTAN, est un partenaire naturel. Je veux dire, on l'a pas inventé. Et la
compliqué.
Turquie se flatte elle-même d'avoir un rôle à jouer. C'est-à-dire que si on ne lui confiait rien du tout, et si on lui disait « mais vous n'êtes bon à rien » ou « alors on n'a pas confiance », la Turquie se sentirait encore plus offensée. Je crois que c'est une question de susceptibilité qui fait que les uns comme les autres, à partir du moment où ils n'ont pas la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, en l'occurrence nous, combattre Daesh et Erdogan, lutter contre les Kurdes, c'est vrai que ces deux politiques-là sont totalement contradictoires. Elles le sont. Et donc, il y a un moment où, forcément, ça frotte.
Il est au centre du jeu, Erdogan, aujourd'hui.
Alors, pas lui tout seul.
Non.
Pas lui tout seul.
Lui avec les Russes ?
Lui avec les Russes, c'est vrai. Pendant très longtemps, pendant toute la partie offensive, si vous voulez, de la guerre qu'a menée le régime contre son opposition avec l'aide des Iraniens, les Russes et les Turcs étaient un peu en retrait. L'arrivée des Russes a totalement changé la donne. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous avez vu se former cette sorte d'attelage un peu bizarre. Turquie, Iran, Russie. Mais ce sont aujourd'hui les trois acteurs sans un desquels rien ne peut se jouer. Rien ne peut se faire sans la Turquie aujourd'hui. On le voit bien, tant que cette histoire kurde ne sera pas réglée, tant que ses relations avec les autres partenaires de la coalition et de l'OTAN, et donc les États-Unis, ne sera pas normalisé ou apaisé. Idem pour l'Iran, qui a sa présence, vous le savez, en Syrie et au Liban et en Irak aussi, à travers les milices. Et naturellement, les Russes, qui sont pour le coup, j'allais dire, l'acteur le plus influent et le plus dominant dans ce jeu-là. C'est véritablement Vladimir Poutine qui a réussi cet exploit de se mettre précisément au centre de toutes les questions, pour pouvoir être l'interlocuteur incontournable.
Avec quoi il a séduit, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais appâté, converti Erdogan, Vladimir Poutine. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un tournant russe, hein, à un moment donné, de cet allié, de ce membre de l'OTAN qui est la Turquie ?
Mais parce qu'il... Enfin, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté mercenaire. Quand vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez avec l'un des plus grands acteurs du jeu, en l'occurrence à l'époque c'était les États-Unis, vous allez chercher ailleurs. Et c'est exactement ce qu'il a fait, de façon assez pragmatique et cynique même. Ce que je n'arrive pas à obtenir avec les Européens ou avec les Américains, je vais le chercher du côté des Russes. Vous avez un nombre incalculable d'acteurs. Du soutien. Du
les
soutien
armes,
politique.
Par exemple,
c'était alors, quoi cette l'histoire des S-400, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'au départ, les Turcs n'avaient pas voulu chercher l'aide militaire russe ou le contrat avec les Russes. Ils avaient demandé à un certain nombre de partenaires, dans un appel d'offres assez réglo. Les Français, d'ailleurs, étaient sur les rangs avec d'autres partenaires européens. Les Américains étaient sur les rangs avec leur système Patriot. Et puis, quand il a vu que soit c'était trop cher, soit il y avait des conditionnalités, soit les conditions qui étaient mises à ce genre de contrat ne lui satisfaisaient pas, il a été voir du côté des Russes. Et les Russes lui ont fait une proposition assez alléchante et piégeuse même. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où les S-400, vous les négociez, ça va. Mais quand maintenant vous les avez et qu'ils sont chez vous, c'est difficile de faire une marche arrière. Là, on pense qu'effectivement, à Washington, il va réussir à obtenir que les Américains mettent les Patriotes, pas forcément avec, avec toute la technologie qui va avec, mais en même temps, c'est un membre de l'OTAN, ce sont des systèmes compatibles, etc. Et ce qu'il va lui permettre d'avoir les avions qui vont avec, une centaine de F-35, avec là, pour le coup, une possibilité d'en construire une partie chez lui, ce qui donne du travail et ce qui ramène de l'argent.
Où en est-on ? On parle des F-35 et de l'armement turc. Où en est-on de l'offensive militaire en Syrie ? Vous disiez tout à l'heure, Ariane Bonzon, il n'a pas réussi à avoir le corridor qu'il escomptait. Il y a toujours des combats. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ?
Si vous vous souvenez, il avait montré des cartes. D'ailleurs, il a passé 6 heures face à Poutine avec sa carte où il voulait une longue zone. Au final, il a eu que le tiers de ce qu'il voulait, c'est-à-dire 100 kilomètres de longueur, alors qu'il voulait 300 kilomètres, si vous voulez. Bon, une profondeur de 30 kilomètres. C'est là où il veut effectivement, dit-il, renvoyer des réfugiés. Alors ça, on ne sait pas du tout si ça va être possible. D'accord. D'autant plus qu'il a besoin de l'argent des Nations Unies et l'Union Européenne. C'est là où, quand même, vous voyez, c'est pas Poutine qui va payer la construction de maisons ou d'infrastructures pour accueillir ces réfugiés. Donc ça, c'est quand même la limite. Et pour ce qui est Poutine a une marge de manœuvre extrêmement réduite. Il ne faut pas croire qu'il a... Cela dit, il a instrumentalisé un peu Erdogan. Erdogan a été à bien des égards la petite main de Poutine.
D'accord.
Face aux Américains, face aux Européens. Il y a un certain nombre de choses qu'a fait Erdogan. Poutine ne pouvait pas rêver mieux, en particulier.
Très vite, j'en ai mis le percher pour que j'aille au deuxième
reportage.
Il a réussi
quelque chose de stratégique pour elle, c'est qu'il était en train de se construire un pseudo-État kurde, qui s'appelait le Rojava, dans le nord de la Turquie, dans le nord de la Syrie, et ça, il a été balayé en une semaine. Et maintenant, Bachar est revenu.
Mais il y a toujours des combats sur le terrain en ce moment entre.
Il y a des combats aujourd'hui, ils se frottent.
D'accord.
On peut pas dire qu'il y a des offensives.
On est prêt du cessez-le-feu ou pas ?
Non, il n'y en aura pas avant trois générations.
Bon, allez. Et en tout cas, il y a les coups de menton d'Erdogan sur la scène internationale et la réalité économique de son pays qui est devenu en quelques années le point faible du sultan. La croissance est en baisse, le chômage grimpe et les prix à la consommation flambent, comme vous allez le voir dans ce reportage à Istanbul de Mélanie Nunes, Arnaud Fora et Juliette Vallon.
Sur ce marché au cœur d'Istanbul, certains fruits et légumes sont presque devenus des produits de luxe. Avec une inflation de 20% en moyenne chaque année depuis 5 ans, difficile de faire ses courses comme avant. Alors de nombreux habitants ont dû changer leurs habitudes de consommation. Par exemple, le brocoli que j'ai à la main, je l'achetais 1,88€ l'année dernière, ce qui est déjà cher. Maintenant, il en vaut 2,35€. Et l'avocat aussi. Avant, j'en mangeais une moitié tous les petits déjeuners. Maintenant que le prix a doublé, je n'en mange qu'une fois par semaine. Jian, 47 ans, est professeur et fait partie de la classe moyenne stambouliote. Aujourd'hui, cette crise l'inquiète.
Je suis assez pessimiste concernant le futur, car on n'est pas habitué à ces hausses de prix et elles continuent à se multiplier. Les gens se demandent jusqu'où ça va aller. On se rend compte qu'il va falloir se serrer la ceinture, faire des petits sacrifices. Cela nous angoisse et risque de créer du mécontentement.
Nous avons été obligés d'augmenter nos prix parce que les coûts de production à cause de l'inflation ont beaucoup augmenté, ce qui fait qu'on a dû les acheter plus cher aux producteurs. Et donc, on a été obligés de répercuter nos prix sur les clients.
Au cœur de cette crise, le cours de la livre turque, très instable. L'année dernière, la monnaie nationale a perdu près d'un tiers de sa valeur face au dollar. Et s'est encore déprécié de 3% depuis le début de l'offensive turque en Syrie. Une tension économique et politique ressentie jusque dans ce quartier d'Istanbul. Ici, la spécialité, c'est le textile. La Turquie est le 5e exportateur mondial.
Ça, ça part pour la Jordanie, non ? Attendez, on va vérifier avec ma femme. Oui, regardez. Jordanie.
Depuis plusieurs mois, ce fabricant de manteaux a vu ses ventes vers l'Europe chuter. Le surcoût appliqué à ses produits à cause de l'inflation fait fuir les investisseurs occidentaux. Pour s'en sortir, il peut encore compter sur une clientèle orientale basée au Maghreb ou au Koweït. Et pour lui, le principal responsable de ces difficultés s'appelle Recep Tayyip Erdogan.
Si on veut changer les choses, il faudrait que le pays se tourne à nouveau vers l'Europe, que celui qui nous dirige réchauffe les relations avec l'Europe. On ne peut pas tout miser sur les marchés arabes. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'eux, et pas seulement dans ce secteur. Regardez les hôtels, les restaurants. Ils ne sont plus fréquentés que par des Arabes. Il n'y a plus d'Européens.
Des entreprises européennes qui désertent la Turquie et des touristes occidentaux peu à peu remplacés par des voyageurs asiatiques près de la mosquée bleue d'Istanbul. En 3 ans, le nombre de vacanciers français a dégringolé de 80%. C'est ce qu'a constaté cette agence de voyage. Et ici, on regrette que des décisions politiques pénalisent toute la société.
Là où les Français font l'amalgame, il y a une grande partie de la population qui n'est pas d'accord avec le gouvernement actuel. Donc là-bas, on a l'impression que tous les Turcs sont impliqués dans les mauvaises choses, etc. Or, c'est pas du tout, ça relate pas du tout la réalité.
Cette crise économique pourrait-elle fragiliser Recep Tayyip Erdogan ? En juin dernier, le parti du Premier ministre turc a perdu la mairie d'Istanbul, fief historique de son leader, comme un lourd désaveu de sa politique.
Je me tourne vers vous, Ariane Bonzon, vous rentrez, je le disais tout à l'heure, de Turquie. On ressent le ralentissement économique en Turquie.
Oui, on vit comme un pacha hein, quand on arrive avec des euros là-bas, c'est assez facile. La question est bien posée, est-ce que cette crise économique va affaiblir Erdogan ? Elle l'a affaibli, ça y est, ça a commencé. Et un certain nombre de ses positions, en particulier l'opération en Syrie, s'explique par la crise économique. C'est qu'il a absolument besoin d'essayer de ressouder la nation derrière lui, parce que la crise économique, et il est très bien placé pour savoir ce que ça veut dire, parce que s'il a été élu en 2001, c'est parce qu'il y avait une énorme crise économique à l'époque. Et il a surfé sur ça.
Sa promesse.
C'était sa promesse. Lui, il a un pacte social, si vous voulez, avec les Turcs. C'est pour ça qu'il fait une obsession sur le taux de croissance, qui s'annonce à 0,5% pour l'année prochaine. Hein. Le pacte social, c'est je vous donne la croissance, je vous donne donc plus de pouvoir d'achat, etc. Mais en vérité, tout ce qui est réforme structurelle, il l'a un peu mis sous la table. Il a fait énormément de travaux très visibles pour se construire un réseau de clientélistes aussi. Et il s'est pas vraiment attaqué. Par exemple, il y a très peu d'industries d'haute technologie en Turquie. Il y a très peu d'industries à valeur ajoutée. Il y a tout un travail à faire. Et il ne l'a pas fait. Et il paye aussi le prix de ça aujourd'hui. Et les investissements qui, effectivement, pas de confiance. Enfin, les investissements, effectivement, ne viennent plus. La chose très importante qu'on n'a souvent pas relevé, c'est ce qu'a fait Volkswagen il y a quelques jours. Volkswagen, qui était donc une grosse entreprise allemande, a retiré sa licence. Ça veut dire 4 000 emplois de moins. C'est énorme.
À quel motif ?
Motif manque de confiance, crainte, stabilité ou plus de rentabilité, etc. Et ça, ça vaut toutes les sanctions possibles. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été...
Ce que je retiens de ce que vous expliquez, c'est qu'il peut avoir des succès sur la scène diplomatique. C'est là que ça se joue pour lui, sur le terrain économique et sur ses succès ou sur ses échecs en matière économique.
Absolument. Et c'est ça qui explique aussi ses redomontades, un certain nombre de grandes gueules, quoi, ouais, côté grande gueule.
Le reportage le disait, il y a quand même eu ce qui s'est passé au municipal. Les deux principales villes du pays, Ankara et Istanbul, sont passées aux mains de l'opposition. Opposition qui a réussi à s'unifier. Et c'est très curieux parce qu'il y a des partis de gauche, mais il y a aussi des petits partis, un petit parti islamiste, un petit parti de droite nationaliste, enfin bref. Et ils ont réussi à s'unifier contre lui, avec... Comme seul programme, ça suffit, ouais. Erdogan. C'est un peu la même chose qu'on a observé à Budapest récemment contre Orban, où tous les partis, des écologistes à l'extrême droite, se sont unis pour s'opposer. Donc, il se passe des choses.
Il est fragilisé, vous diriez jusqu'à...
Oui, sans doute, oui. Il est fragilisé. En même temps, le système reste... On voit quand même que le système reste dynamique, parce que, ne serait-ce que l'opposition est arrivée au pouvoir dans les deux villes. Il faut quand même imaginer ce que serait la Russie de Poutine si le maire de Moscou et le maire de Saint-Pétersbourg étaient des opposants à Poutine. Donc, on voit bien que la Turquie, en termes d'évolution sur la voie de l'autoritarisme, comme on dit, n'en est pas au niveau de la Russie, parce qu'en Russie, les candidats de l'opposition ne peuvent même pas se présenter. Ouais, quant à la Chine, on imagine pas Shanghai et Pékin présidés, dirigés par des élus d'opposition, puisqu'il n'y a pas d'opposition.
L'éradicateur, comme vous l'avez appelé à la ligne du
situation.
Point, on va y venir, mais vous l'aviez appelé l'éradicateur dans une enquête...
Pas moi, mais enfin, le
journal,
le magazine l'a fait.
Voilà, c'était le titre du point, l'éradicateur. Il est fragilisé.
C'est une évidence. Ouais. Cette fuite en avant permanente, cette surenchère populiste qui divise la société turque de manière extrêmement profonde, ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'Erdogan joue sur cette fibre-là. Alors... Effectivement, il y a encore une apparence de jeu démocratique. L'opposition est arrivée à Istanbul au mois de juin, rappelons-le, à la suite d'une élection annulée une première fois, contestée par Erdogan de manière totalement illégale. Ouais. Je veux dire, on est complètement sorti d'une logique de droit. C'était une logique complètement politique d'essayer de conserver la mairie d'Istanbul, qui est le cœur de son pouvoir depuis 25 ans. On voit bien avec les mairies kurdes, 4 maires de villes kurdes encore destituées. Ce matin, 20 villes ont été mises sous saisie par l'État. Il n'y a plus de démocratie dans toutes ces régions aujourd'hui.
Ça veut dire qu'il n'a pas d'opposant crédible, solide face à lui.
Ça veut dire qu'il a fait en sorte de ne pas en avoir. Ouais. C'est Selahattin Demirtas, le leader du parti kurde, est en prison depuis plus de 3 ans. On a aujourd'hui l'émergence de Ekrem İmamoğlu, qui est le nouveau maire d'Istanbul, mais dont on voit bien qu'il a été obligé très rapidement de faire allégeance à Erdogan sur la question de la guerre en Syrie.
Le régime s'est durci depuis son arrivée au pouvoir, on le rappelait en 2001. Moi, je me souviens, à l'époque...
2003,
vous parlez de 2001.
La crise économique a eu lieu en 2001.
Et les élections 2002. On se souvient à l'époque que Jacques Chirac se tournait vers Erdogan et on se disait, c'est celui qui va retourner la Turquie vers l'Europe à cette époque-là. C'est de ça dont on parlait.
Ça a été le cas pendant de nombreuses années. On parlait de l'économie. Le PIB par habitant a cru, a été multiplié par 3 entre 2003 et 2009. D'accord. Depuis 2009, il stagne ou il régresse. Donc on voit bien que la courbe de l'économie turque se calque sur la courbe de la démocratie. Ça fait une dizaine d'années qu'Erdogan ne fait plus les réformes démocratiques ni les réformes économiques, ouais. Qu'il gère l'économie turque comme une rente personnelle avec autour de lui, encore une fois, un système extrêmement clientéliste avec une part de redistribution vers les électeurs qui lui permet évidemment de garder ce pouvoir. Mais il y a une forme d'enrichissement. Il gère ça comme une rente personnelle.
Dans l'enquête qui avait été publiée par votre journal, on apprenait que Erdogan avait pactisé avec d'anciens de Daesh et d'Al-Qaïda qui se chargeaient des basses besognes.
Oui, alors je ne suis pas responsable de cet article, donc je ne vais pas répondre de.
Mais c'était sur la méthode. C'était sur le double jeu d'Erdogan.
Bien sûr, on voit aujourd'hui dans les.
Sur les alliances troubles.
C'est ça.
Les alliances troubles. On voit bien que d'ailleurs les États-Unis. allié de la Turquie jusqu'à un certain point. Dans l'arrestation de Baghdadi à 5 km de la frontière turque, la Turquie n'a pas été impliquée. Donald Trump a remercié Erdogan de ne pas avoir tiré sur les hélicoptères américains. L'alliance en est là, si vous voulez, entre Washington.
Cette question, pourquoi l'Union européenne ne hausse-t-elle pas le ton en réduisant ses échanges économiques avec la Turquie? On parlait de...
La réponse est dans la question. Voilà. C'est parce qu'il y a des intérêts européens, évidemment, je veux dire, les intérêts économiques et commerciaux. Dire la Turquie, elle a pour principal partenaire l'Europe et vice-versa. Et donc, la difficulté, si vous voulez, c'est de voir que sur le plan politique, l'une des raisons pour lesquelles c'est si difficile, c'est que les intérêts ne sont pas convergents. Les intérêts économiques et commerciaux le sont, mais il faudrait pour cela aussi qu'il y ait une forme de normalisation et d'objectifs communs. Sur qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de la Turquie et du président Erdogan? Pendant très longtemps, on a prêché l'accès à l'adhésion à l'Union européenne. Ça n'est plus le cas du tout aujourd'hui, et en partie à cause de la question des droits de l'homme, mais pas seulement. Et de l'autre côté...
C'est une discussion qui est totalement close?
Oui, totalement. Le panier droits de l'homme aujourd'hui à Bruxelles, il n'a pas été rouvert, je crois, depuis facilement 4 ou 5 ans, au moins. Donc, et la Turquie attendait de l'Europe un certain nombre de gestes d'ouverture qui se sont rarement manifestés, précisément parce qu'il y avait des blocages, soit sur les questions régionales, on vient de le voir avec la Syrie, soit sur les questions concernant les droits de l'homme, soit, pour le coup, avec ce genre de surprises qui n'en sont pas totalement, mais de, par exemple, la relation avec la Russie. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron va jusqu'à dire
oui, c'est
de la
folie.
Peut-être que le terme a été mal choisi, mais en tout cas, c'est par nature quelque chose d'inattendu, voire d'hostile. Je veux dire, aller chercher une relation stratégique avec un partenaire militaire comme la Russie, quand vous appartenez à l'OTAN, la moindre des choses, c'est qu'éventuellement vous soumettiez cette sorte de pacte avec vos partenaires autour de la table.
Il doit se sentir tellement fort pour ne pas le faire, François Clémenceau, tellement sûr de ses positions, tellement sûr de son avantage dans ce jeu diplomatique, pour se permettre, vis-à-vis de ses alliés, de dire, vous savez quoi, je vais y aller seul et en plus, je ne vais pas vous prévenir.
Oui, mais je crois que tout ce qu'on a dit autour de la table le résume bien. Je crois qu'il y a aussi un côté « je n'ai pas le choix ». Et il y a aussi un côté où je dois résoudre mes problèmes économiques et politiques en interne. Et donc, il faut que je choisisse à un moment d'aller chercher à l'extérieur une réponse, un peu comme l'a fait aussi Poutine, à certains égards. Le fait d'aller chercher, quand on a des difficultés à l'intérieur, d'aller chercher une victoire à l'extérieur pour dire, regardez, pour attiser le sentiment national, la fierté nationale.
Ça marche ?
En partie.
Ça marche ou pas ?
En partie. La question, c'est est-ce que ça dure ? Est-ce que ça a un effet durable ?
À court terme, voilà. C'est ça. Et en Turquie, on dit, mais il y aura un coup d'après. C'est-à-dire qu'il va y encore chercher. Alors, ils ont très peur d'une nouvelle guerre civile. Si vous voulez. Turquie, ils disent, bon, maintenant, il a fait ça, il va essayer de, en particulier, comme on l'a expliqué, c'est-à-dire que dans le sud-est, avec les Kurdes, dont il aérase absolument toute possibilité d'expression politique et de représentation politique.
Alors justement, il y a la guerre que Erdogan mène contre les Kurdes en Syrie et celle sourde et quotidienne contre les Kurdes de Turquie. Nos reporters sont allés à la rencontre de cette minorité qui a vu changer le climat à leur égard, en particulier depuis cette nouvelle offensive. Mélanie Nunez et Arnaud Fora.
Nous voulons avoir le droit de nous exprimer. Nous voulons la justice. Des mères, épouses, filles de disparus kurdes, encerclées par des policiers turcs. Chaque semaine, elles réclament vérité et justice. Le père de Besna, ancien élu kurde, a été arrêté il y a plus de 20 ans. Depuis, il reste introuvable. Aujourd'hui, ça fait 24 ans que mon père a été enlevé par 3 policiers en civil. Cette forte présence policière démontre qu'il y a un manque de liberté dans ce pays. Depuis plusieurs semaines, ces mères sont confinées devant le local de leur association. Impossible pour elles de marcher dans le centre-ville, pancarte à la main, comme elles le faisaient depuis des années. Je continuerai à crier jusqu'à ce que j'obtienne des informations et la justice. Vous, policiers, vous me montrez du doigt, vous me demandez de m'incliner. Mais vos intimidations ne sont que le signe de votre illégalité. Vous appliquez les ordres d'un État criminel.
Le bras de fer entre la communauté kurde et l'État turc existe depuis des décennies. Mais depuis quelques semaines, il s'est encore durci.
Des tensions qui se ressentent aussi dans la société, comme dans cette ville très conservatrice à l'est du pays, où les pro-Erdogan sont nombreux. Ce Kurde de 74 ans a toujours vécu ici. Il y a quelques semaines, alors qu'il se rendait au chevet de sa femme, à l'hôpital, il a été agressé par son voisin de chambre.
Nous parlions en kurde. Il nous a demandé « Qu'est-ce que c'est que ce charabia ?» Je lui ai répondu « Nous sommes kurdes, nous parlons en kurde. » Il m'a dit « Ici, c'est la République de Turquie. Vous devez parler turc, mais moi, ma femme, elle ne parle pas le turc. » Il m'a tapé deux fois. La première sur l'arrière du crâne, la seconde sur l'avant, quand je me suis retourné. Au premier coup, la bouteille s'est brisée. Il a porté le second coup avec le tesson. Ils ont dû me faire plein de points de suture.
Ils se rendent au commissariat, mais la plainte a été classée sans suite. Un ami de la famille, kurde lui aussi, leur a porté secours. Il explique avoir observé une augmentation de la violence dans sa ville.
Il y a une tension dans les rues à cause du langage guerrier employé par Erdogan et son parti. Ces mots peuvent encourager certains au lynchage. Un jeune a été tué dans la rue tout près d'ici pour avoir parlé en kurde en public. Et cet homme a été agressé à l'hôpital.
À Istanbul, un parti politique, le HDP, tente de faire avancer les droits de cette communauté. Assad Baris est son porte-parole. Ce jour-là, il vient en aide à ses militants kurdes, anciens détenus.
Toi, tu es resté combien de temps en prison ?
Moi, au départ, j'avais été condamné à 18 ans. Et au final, ma sentence a été réduite à 12.
Au final, t'as fait 12 ans.
Oui.
Et toi aussi, t'as fait 12 ans?
Oui, moi aussi.
À ton âge? Moi, je n'y suis jamais allé.
Sois pas pressé, ton tour viendra.
67 députés de ce parti d'opposition ont été élus et siègent au Parlement turc. Assad l'affirme, ils sont réprimés politiquement.
Dans la vision du monde d'Erdogan, il n'y a qu'une seule identité, turco-islamique. Les autres identités minoritées sont niées. Et comme les Kurdes représentent la plus importante minorité et qu'ils sont organisés politiquement, ce sont les premières cibles du pouvoir. Nous manifestons dans les rues, nous faisons des propositions de loi, nous portons plainte aussi contre le gouvernement. Nous tentons par tous les moyens de combattre cette discrimination.
La minorité kurde compte entre 15 à 20 millions d'individus, soit près d'un quart de la population en Turquie.
Et Ariane Bonzon, ça a exacerbé les tensions ?
Ce qui est compliqué avec cette affaire kurde, c'est qu'il y a à la fois un vrai problème d'identité culturelle et ethnique. C'est-à-dire qu'effectivement, les 20 millions de Kurdes de Turquie, ils ont envie effectivement qu'on leur reconnaisse leur spécificité culturelle. Mais il est vrai aussi que le projet politique défendu par l'HDP ou par le PKK n'est pas celui partagé par tous les Kurdes. Ça, il faut faire attention à ça. Bon, Erdogan dit toujours qu'il y a 50 députés kurdes, c'est vrai, mais ils ont tous quand même, même s'ils sont pro-AKP, ils ont cette aspiration culturelle. Et quand ils ont vu ce qui se passait en Syrie, il y a eu ce rêve quand même de l'entité kurde qui était là. Rappelez-vous Kobané, toute l'affaire Kobané, il y avait un drapeau kurde. Maintenant, il n'y est plus. Donc, bon, il se trouve qu'effectivement, j'étais là-bas. Maintenant, ils sont assommés. D'abord parce que ce rêve a été dissous. Quoi. Enfin, il n'y a plus cette entité kurde qui les faisait rêver et qu'ils espéraient aussi, d'ailleurs, avoir en Turquie, ça c'est vrai. Et puis, second point, toute cette répression sur cette expression politique qu'est le HDP, le Parti démocratique des peuples, qui est quand même, dont les maires, les députés sont destitués. Et les maires ne sont pas remplacés par d'autres élus, ils sont remplacés par des administrateurs, ce qui est complètement illégal. Donc les types disent, à quoi ça sert de faire des élections, de jouer le jeu électoral? Au fond, le PKK a raison. Et c'est là où Erdogan a peut-être mal calculé son
coup.
Parce que le PKK va en sortir renforcé.
Mais c'est peut-être son objectif. L'objectif d'un gouvernement turc peut être aussi d'avoir, en tout cas d'un gouvernement dont les opérations militaires sont un axe fort de sa politique à chaque fois, un tel gouvernement a tout intérêt à avoir un PKK fort, qui puisse représenter une menace de nature à ressouder la nation autour de ces opérations antiterroristes. Faut pas oublier que depuis le 11 septembre 2001, la Turquie est le pays de l'opération antiterroriste. 350 000 arrestations pour des affaires de terrorisme depuis le coup d'État. Un tiers des arrestations pour des histoires de terrorisme depuis le 11 septembre 2001. La Turquie est vraiment un modèle, si vous voulez, de cette idéologie sécuritaire devenue totalement tentaculaire et qui dirige aujourd'hui un certain nombre de services de l'État. Beaucoup de choses sont construites autour de ça et Erdogan a su... après en avoir été la victime, on le disait tout à l'heure, de la part de ce qu'on appelle l'État profond en Turquie,
Vous parlez du coup d'État ?
Cette structure militaire. Et puis, il y a 20 ans, Erdogan en a été aussi la victime. Il en est devenu aujourd'hui le maître de cet appareil d'État.
Jean-Dominique Merchet, vous voulez dire un mot ?
Oui, c'est un vrai gâchis, cette histoire, parce que, en fait, quand, au départ, Erdogan... et certainement le dirigeant turc est allé le plus loin dans la réconciliation avec les Kurdes. Il négociait avec le dirigeant kurde du PKK, Öcalan, qui est dans une île en prison au large d'Istanbul. Et il y avait la possibilité d'un accord parce que, au fond, ce que rejette le mouvement national kurde, c'est le nationalisme turc tel qu'il s'exprimait dans l'ancien régime kémaliste, c'est-à-dire un modèle jacobin, très français en fait, sur le thème ici on parle français, ici on parle turc, il n'y a qu'une nation, c'est les Français, il n'y a pas de minorité, il n'y a pas de communautarisme comme on dit maintenant, et le laïcisme. Bon. Donc il y avait cette tentative qui a échoué, et si elle a échoué, les deux parties portent une responsabilité dans l'échec. Une partie du PKK a refusé cette logique et une partie des nationalistes kurdes, turcs, y compris...
Donc, quel gâchis des deux côtés, c'est ça que je voulais dire.
Quel gâchis des deux côtés. Et alors que ça pourrait marcher, puisque, par exemple, le seul endroit où les Kurdes ont réussi à créer un pseudo-État, c'est-à-dire dans le nord, un quasi-État, un proto-État, pardon, dans le nord de l'Irak... là, les Kurdes entretiennent de bonnes relations avec la Turquie. Ils sont relativement alliés. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une hostilité historique, que la réconciliation est possible. En l'occurrence, là, c'est raté pour un bon moment.
Mais j'irai plus loin. Il y a eu des négociations avec les IPG, les Kurdes syriens, et avec le PKK directement aussi, après ces négociations intérieures, si vous voulez, au moment de la Syrie, il y a eu des négociations.
Mais là, on n'en est plus là du tout. C'est ce qu'on a compris aussi avec ce reportage.
En fait, il faut savoir que Erdogan a eu un problème au sein de l'État de concurrence dans le camp islamique. Et il a dû changer, il a dû se détacher de son allié islamique, qui était les gulenistes, pour aller vite, et s'allier avec les ultranationalistes et des gens plus pro-Poutine qu'atlantistes. Ce qui explique beaucoup de...
François Clémenceau.
On a glissé à un moment sur les alliances troubles et je trouve qu'il y a, en marge de cette affaire kurde, je pense qu'il y a aussi quand même une question qui se pose sur la philosophie morale et politique qui inspire les Kurdes et Erdogan et ses soutiens. L'une des particularités d'Erdogan depuis une douzaine d'années, c'est que sa politique islamique... Encore une fois, n'oublions jamais que c'est un parti islamiste, inspiré des frères musulmans, a essayé de rayonner, d'essayer de trouver des soutiens, de montrer qu'il y avait une forme de dynamisme de cette philosophie politique et qui s'exprimait. Elle a échoué quasiment partout. Elle a échoué en Tunisie, elle a échoué en Égypte. L'allié au Qatar a subi des coups terribles de la part des monarchies du Golfe. Je veux dire, où aujourd'hui les frères musulmans et l'islam politique qu'incarne Erdogan et rencontre le succès. Ouais. Mais le succès politique, le succès populaire, il n'y a pas beaucoup de place. Et donc je me demande de quelle façon, si vous voulez, cette sorte d'échec n'est pas non plus, ne trouve pas une forme de relais dans l'incapacité d'aller s'entendre avec un peuple, le peuple kurde, qui pour le coup est très loin de cette vision islamiste de la société, cette vision ultra-nationaliste turque, etc.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Que veut obtenir Erdogan en faisant du chantage au renvoi de djihadistes ? C'est quoi le deal ? Est-ce qu'il y a un deal ?
Un soutien à ces projets en Syrie, d'abord. Hein, remettre des Syriens sunnites dans le nord de la Syrie, sur ces territoires qu'ils espèrent constituer une zone de sécurité, une nouvelle ceinture arabe hein, contre les Kurdes. C'est d'abord ça. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, il est capable d'instrumentaliser d'autres questions le temps venu. La question de Chypre, d'autres...
C'est une façon de dire aux Français, aux Européens, baissez d'un ton.
C'est une façon de montrer qu'il a une carte en main.
Et de montrer qu'il, on l'a compris,
qu'il est capable d'exploiter, émission. Encore une fois, nos propres faiblesses.
L'Union européenne va-t-elle céder au chantage d'Erdogan ?
Ça dépend auquel. Mais c'est vrai que celui dont on a peu parlé sur Chypre est très intéressant. Parce que pour le coup, c'est vrai que... autant la question migratoire fait peur, je veux dire, elle suscite énormément de fantasmes, donc évidemment, sur l'opinion publique, ça a un impact, et Erdogan s'est parfaitement enjoué. Mais là, l'idée que, puisqu'il y a cette question chypriote, où vous savez, le conflit n'a jamais été résolu, ça fait 40 ans que les Nations Unies essayent de réconcilier les chypriotes du Nord turcs et les chypriotes chypriotes, et là, de jouer sur les limites... de territoires maritimes pour pouvoir aller forer, exploiter évidemment les ressources sous-marines qui sont très importantes. On le voit maintenant, c'est une zone assez immense qui se trouve dans cette partie de la Méditerranée orientale où là, vous avez une grosse concurrence avec les Libanais, les Israéliens, les Syriens,
ils
les Turcs.
Ils testent les limites de l'Europe sur le dossier chypriote.
Et vous avez vu, l'Europe, vous savez que ne hurle jamais, mais l'Europe, quand elle dit on n'est pas d'accord, ou ça n'est pas bien, ou il faudrait s'y prendre autrement, elle le dit, elle le fait. Et là, je suis surpris du nombre de communiqués publiés par les Européens sur ce thème-là. Depuis le début de l'été, ça s'accumule. Il y a peut-être un bras de fer, là, sur cette question de l'exploitation des ressources sous-marines au large de Chypre, alors que, allez expliquer ça à l'opinion publique, qu'on est aussi en conflit avec la Turquie sur, précisément, le respect du droit international, des zones... C'est très compliqué.
Avons-nous des moyens de rétorsion vis-à-vis de la Turquie ou sommes-nous tout nus ?
Investissement ?
Oui,
donc ça dépend.
Armée économique ?
Économique, oui.
La situation très tendue d'aujourd'hui n'est-elle pas due principalement à l'attitude de Trump en Syrie ? Jean-Dominique Merchet.
Non, elle est... La situation est extrêmement...
C'est pas le point de départ, le retrait des troupes américaines ?
Oui, enfin, c'est ce qui a déclenché les événements, les derniers événements. Mmh. Mais nous étions depuis longtemps, depuis le début de la guerre contre l'État islamique, dans une trajectoire de confrontation avec la Turquie. On le savait. On savait qu'un jour, la question se poserait, et les Américains le disent, l'alliance avec les Kurdes de Syrie n'est que temporaire, limité et tactique. Il ne s'agit pas d'en faire nos alliés définitifs. Je rappelle quand même que le PKK, par grand parti frère, est un parti que les Américains et les Européens considèrent comme un parti terroriste. Donc, c'était une alliance de circonstances. Nous en avons fait beaucoup là-dessus, les Français, parce que ce sont nos copains. Et donc, nous étions quand même dans une trajectoire de confrontation. D'accord. On savait que ça allait arriver. Le déclencheur, effectivement, de la confrontation, c'est la décision de Trump. Mais pas... Ce n'est pas lui qui a créé ce contexte où les Turcs ne cessaient de dire « Écoutez les gars, ça ne nous va pas ce que vous faites ».
Quels sont les liens personnels entre Trump et Erdogan ?
Bon, on en a parlé tout à l'heure, hein, des liens d'affaires via Jared Kushner. Oui, ils se connaissent bien. Erdogan était à l'inauguration de la Trump Tower à Istanbul en 2011. Donc, oui,
et ils fonctionnent un peu pareil ?
Ils ont effectivement le même instinct, la même manière de voilà, de...
De
gouverner par éruption, comme ça, de tweets ou de déclarations un peu à l'emporte-pièce.
N'ont-ils pas un but commun, l'amoindrissement, si ce n'est la destruction de l'Europe ?
Bah oui, mais pas
Trump et Erdogan.
Pas avec les mêmes moyens, non. Pas avec les mêmes objectifs, et j'allais dire, pas forcément à court terme ou à long... Enfin, ils ne sont pas dans le même calendrier, si
Erdogan
vous voulez.
N'a aucun intérêt à détruire l'Europe, encore une fois. 45% des échanges commerciaux de la Turquie se font avec l'Europe. Donc,
diviser politiquement les Européens entre eux sur un certain nombre de questions, sujet par sujet, oui, c'est exactement ce que fait Trump, c'est ce que fait Poutine également, avec beaucoup de brio. Mais c'est vrai, les Turcs le font, oui,
les
bien
Turcs
sûr.
Les Turcs voulaient rentrer dans l'Union européenne. Et s'ils le veulent, si on a refusé que la Turquie rentre dans l'Union européenne, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Dès qu'on en parle en privé avec les gens, les responsables responsables politiques, tout le monde dit la même chose. On avance les droits de l'homme, hein, c'est compliqué la géopolitique. La réalité, c'est que c'est 80 millions de musulmans et que et les gens disent en privé, pas en public.
Les gens et les responsables, même,
les responsables politiques français
et
européens disent, vous ne voulez quand même pas que le pays le plus peuplé de l'Europe, ce soit un pays musulman. Voilà la réalité.
Pourtant, on a laissé les discussions avancer, Jean-Dominique Blanchet. On a laissé les discussions avancer avec...
Oui, bien sûr, mais c'était une pure hypocrisie.
Erdogan est-il soutenu par la Russie? Cette association est-elle dangereuse pour l'Europe? On en a parlé tout à l'heure des liens avec, avec Poutine.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les deux également ont la même approche, par exemple, de leur relation avec les Balkans. C'est assez intéressant de voir justement qu'aux marges de l'Europe, vous avez historiquement des liens très forts entre la Russie et les Balkans du Sud, les Ottomans, les ex-Ottomans, pardon, aussi. Et donc, c'est intéressant de voir que si jamais il y a une division des Européens vis-à-vis de la Turquie, vous aurez aussi une division des Européens sur l'appartenance des Balkans à l'Union Européenne.
Et il y avait une dernière question, mais on fera une nouvelle émission sur la Turquie. Jusqu'où Erdogan veut-il aller? Eh bien, vous reviendrez pour en reparler. Merci. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h25. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.